Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La problématique écologique, elle va peser énormément sur les catégories les plus pauvres en fait, dans la société.
Vous vous souvenez, la semaine dernière, on était dans le Sungo, à la Maison de la Nature, et on y a rencontré Eric Osio.
Ça va être ça, le grand problème de l'écologie, c'est d'inventer un modèle à la fois écologique et social. Social parce qu'en fait, quand le prix de l'eau il va être à 5 euros le mètre cube, pour quelqu'un qui travaille en Suisse, ça ne sera pas un problème. Pour quelqu'un qui travaille en France et qui a juste le SMIC, ça va être un vrai problème. Et donc la crise écologique, elle va creuser les inégalités sociales et les gens qui ont peu de revenus, qui sont dans la grande précarité, ça va être extrêmement dur pour eux. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre en place des stratégies alternatives sans aucun problème. On l'a vu quand il y a eu les Gilets jaunes. En fait, les Gilets jaunes, ça part d'une préoccupation environnementale qui est une augmentation de la taxe carbone sur les carburants. Et on voit que les gens, en fait, beaucoup se sentent culpabilisés sur ces problématiques d'environnement où à la fois ils sentent bien qu'ils sont dans un système capitaliste très prédateur sur les ressources qui abîme en fait beaucoup la planète. Ce système ne change pas, c'est le système dominant. Et puis d'un autre côté, on interpelle les gens sans arrêt en leur disant « Mais toi, qu'est-ce que tu fais à titre personnel pour l'environnement ?» Et cette injonction permanente de l'action individuelle dans un collectif qui, lui, ne bouge pas, crée un malaise sociétal en ce moment qui est assez perceptible et assez important.
Pour proposer une forme d'écologie qui soit inclusive socialement, une piste de réponse est donc l'action collective. Elle permet de proposer des changements systémiques, donc de ne plus voir les éco-gestes individuels comme le summum de l'engagement écologique. L'action collective met également en lumière le fait que la situation écologique actuelle est liée à un système économique donné qu'il s'agit de questionner. Mais alors, quelles sont les formes d'action collective permettant de lier écologie et social ? À notre habitude, on a voulu répondre à cette question en allant voir ce qui se fait sur un territoire donné. Nous sommes allés tout près du Sungo, dans l'aire urbaine de Belfort, Montbéliard et Héricourt. Exceptionnellement, ce n'est pas un territoire rural. C'est un territoire très marqué par l'industrie automobile. C'est là que se trouvent Sochaux, les usines PSA et le musée de l'aventure Peugeot. L'immense majorité des emplois disponibles se trouvent chez General Electric et PSA. Nous sommes allés plus précisément à Bethoncourt, une ville de 5000 habitants en banlieue de Montbéliard. Le taux de pauvreté y est de 16% et le taux de chômage de 24%. La ville est très marquée par son histoire industrielle. On écoute le maire, Jean-André, nous la présenter.
Bethoncourt était un village dans les années 1900 avec 1500-1700 âmes qui étaient principalement, bien sûr, issus de la terre, donc des paysans. Au fur et à mesure, je dirais des années, Bethoncourt s'est tout doucement industrialisé, est devenu une commune avec donc le monde industriel qui était des filatures dans les années 1950-1960. Donc ce monde industriel est en lien aussi avec le monde PSA, c'est-à-dire Peugeot Automobile, qui se situe sur Sochaux. Et au cours de ces années, et suite à l'évolution du monde industriel et de l'automobile, Bethoncourt est devenu c'était plus un village, c'était une ville, tout doucement agrandie. Nous sommes passés de 2200 à 2300 habitants dans les années 1960 à une commune de 11700 habitants dans les années 1980. Avec bien sûr tout ce qui engendre cette arrivée massive de personnes issues de départements riverains, mais aussi du monde vosgien, du monde de la Haute-Saône. Alors bien évidemment, ce monde arrivant, il a fallu construire des logements. Alors ces logements, bien sûr, il y en a eu dans différentes villes du Piémont-Béliard, mais principalement sur Bethoncourt. Mais ce sont des gens qui étaient principalement logés sur une structure qui est un peu particulière de Bethoncourt, sur le haut de Bethoncourt. Alors, Bethoncourt est donc constitué d'une partie village et d'une partie dite plus monde industriel et monde venant de l'extérieur.
Donc Bethoncourt, bah, c'est clairement une cité dortoir pour Peugeot, donc qui a bénéficié de grandes vagues d'immigration.
Guillaume Rimbert, directeur général des services.
Dans les années 50. Et donc c'est là que Champvallon s'est construit, alors qu'un quartier politique de la ville, comme on dit aujourd'hui, qui s'est développé dans les années 50 avec des grandes tours, des grandes barres d'immeubles, énormément d'immigration hein, à ce moment-là. Et donc pour Peugeot, pour le besoin de main-d'œuvre. Donc la particularité vraiment de notre ville et de notre quartier, c'est que donc il a explosé, multiplié par 10 en 10 ans à peu près, et après, donc dès les années 60, ça a commencé à décroître la population. Donc on est monté à près de 12 000 habitants et aujourd'hui on a moins de 6 000. Donc c'est une population qui a été divisée par deux, donc qui a bénéficié aussi de tout ce qui était rénovation urbaine, donc de l'ANRU notamment. Et donc avec beaucoup de destruction d'immeubles, de bars, voilà, donc pour redonner au quartier. Mais en même temps, donc ça s'accompagne une baisse démographique importante sur une ville. Ça s'accompagne aussi de restructuration massive, sans cesse, de ses services, hein, puisque ça veut dire des grosses pertes de recettes, de finances. Et donc, petit à petit, avec les destructions de bars, y a eu aussi les fermetures de services publics, différents. Alors des écoles, bien sûr, parce qu'il y a moins d'élèves. Il y avait une piscine qui a fermé, une poste qui a fermé, et puis sans doute bien d'autres choses encore d'avant, mais que j'ai pas forcément, sur lesquelles je n'ai pas forcément la vision.
Alors la démolition elle s'est faite très importante, puisque sur le quartier il y avait 6 000 personnes, aujourd'hui nous sommes plus que 2 007. Et le village qui était dit un peu particulier, puisque c'était considéré plus dans le monde rural, aujourd'hui tout doucement, les personnes viennent sur le village et le village devient un peu plus industriel, un peu plus vie de tous les jours. C'est une particularité puisque Bethoncourt, aujourd'hui, quand on parle avec les personnes de Bethoncourt, les habitants, ils disent « ou j'habite en haut, ou j'habite en bas, je suis du village, ou je suis du haut ». C'est encore resté, c'est fortement ancré, mais c'est de par la spécificité aussi de la ville qui est partagée par... une rivière et bien sûr un passage de ferroviaire. Alors nous avons déjà quand même 40% de chômeurs. Mais je dirais le reste de la population travaille tous pour ou l'industrie automobile ou gravite autour du monde automobile. Hein, donc c'est pratiquement 80%.
Parler d'écologie dans ce territoire, au vu des enjeux économiques et sociaux, pourrait paraître déplacé. Pourtant, des projets collectifs portés par les habitants eux-mêmes émergent.
Alors sur Bethoncourt, il y a deux personnes qui ont lancé le mouvement, Marc et puis Odile, et qui ont été rejoints par des gens de la rue Pasteur, Soraya et ses voisines, ses collègues. Donc là, on est un petit peu en fin de saison, donc on n'a plus trop de légumes, mais il y a encore...
Nous retrouvons Cécile Baziré, rue Pasteur, en plein quartier de Champvallon.
Alors ça doit être de la mélisse. Alors, les incroyables comestibles, c'est un mouvement qui est parti de la ville de Todmorden, en Angleterre. Et c'est deux mères de famille qui ont mis ça en place, avec des coins de jardin qu'on récupère sur les terrains de la commune ou chez soi en privé. Et on offre aux gens qui passent par là la possibilité d'arroser, de planter, et aussi de se servir quand c'est mûr, gratuitement. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir planté pour récupérer. C'est en libre service. Et c'est un mouvement qui est parti en 2008, qui a démarré en 2008. Il est arrivé en 2012 en France et en 2013 à Montbéliard, à Besançon aussi, et dans d'autres communes. Et du coup, ils ont mis en place toute une rangée de bacs où ils ont mis des aromatiques, où ils ont mis du maïs, des fleurs. Ils ont refait des bacs après, derrière, et puis des pneus. Et parallèlement à ça, il a été mis en place avec PMA et puis Mickey des composteurs. Donc les gens peuvent mettre leurs épluchures de légumes dans les composteurs, ce qui fait un beau terreau qui est réutilisé après dans les bacs. Et il y a la ville de Bethoncourt qui a aussi investi dans un récupérateur d'eau. Voilà, et je crois que les petits seaux pour le compostage a été offert par la société qui loge les habitants de la rue Pasteur, et ça doit être Néolia, si mes souvenirs sont bons. C'est le service du compostage et des déchets qui présente le compostage, explique aux gens ce qui peut être fait, comment ils peuvent être acteurs de diminuer la quantité de poubelles. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire sur notre communauté d'agglomération au niveau des déchets. Et ça, c'est déjà, oui, c'est déjà une quantité de déchets qui ne sera pas brûlée pour, voilà, alors qu'elle peut devenir du bon terreau. Sur Bethoncourt, il y a le haut et le bas. Donc en bas, on a eu aussi quelques petites plantations qui ont été réalisées sur une année devant l'Arche de Bethoncourt, qui est une salle où il y a des spectacles, il y a du théâtre, enfin il y a pas mal de choses dans cette salle. Il y en avait aussi devant l'école qui s'appelle l'école Pergaud, si mes souvenirs sont bons. Et puis personne s'en occupait énormément, donc voilà, c'est des fois ça prend, des fois ça prend pas. La rue Pasteur, ça a vraiment pris, et c'est vraiment un plaisir de voir que tout le monde, tous les riverains s'en occupent, ou des fois c'est qu'une ou deux personnes, mais au moins ça vit. Mais là où ça fonctionne pas, que ça soit Bethoncourt ou une autre ville, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie du mouvement, et puis c'est voilà. Je pense que ça prend moins en bas parce qu'il y a beaucoup plus de maisons particulières. Et donc chacun a son jardin et puis personne l'utilise trop. Après, les bacs où ils étaient installés, les enfants pouvaient y aller en allant à leur école. Les incroyables comestibles, ils ne vont pas nourrir la planète, ça on en est bien conscient. C'est juste recréer du lien social. Pour la petite histoire, sur la ville de Tonnemorden, il y a des bacs qui ont été installés au niveau du commissariat. Et chaque commissaire a un bac à son nom, où tout est planté et où les gens viennent se servir gratuitement. Et les incivilités, alors on ne va pas dire qu'on fait... que tout devient beau quand on installe les incroyables comestibles, hein, loin de là, mais les incivilités sur Tonnemorden ont diminué parce que les gens se reparlent. Le lien social, c'est on se respecte, on voit l'autre, et puis après on respecte tout ce qui nous entoure, donc notre planète est là, et on, voilà, on comprend qu'on fait un tout quand il y a du lien social. Après, le plus gros souci que les incroyables comestibles ils ont, c'est que les gens n'osent pas. Ils n'osent pas se servir, ils n'osent pas forcément planter. S'il n'y a pas tout un groupe qui est là, voilà, ils n'osent pas se servir, soit parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui sont plus à mal qu'eux, et puis qu'il faut garder pour les gens qui n'ont vraiment pas de moyens, ou soit juste parce qu'il n'y a pas assez. Et puis la gratuité fait quand même peur en France. Beaucoup de gens ont peur de la gratuité. Alors il paraît que c'est une particularité de la France, hein, et quand les gens, on leur dit oui, mais ça va être... les gens vont se servir n'importe comment et tout ça, mais oui, mais c'est quand même le but, c'est qu'ils se servent, c'est gratuit. Et puis il y a quand même la notion de vol, toujours, même si on dit que c'est gratuit. Oui, mais il y a des gens qui vont voler, mais non, c'est gratuit, donc il n'y a pas de notion de vol. Et il paraît que selon les gens que j'ai rencontrés du mouvement, que c'est un peu typique de chez nous.
Cette semaine-là, on est aussi allé au collège de Bethoncourt. Parce que le collège, c'est un lieu d'organisation collective, c'est une communauté de gens où peuvent émerger des réponses communes pour améliorer la résilience de la ville ou pour diminuer l'empreinte carbone du collège.
Alors, les éco-délégués, qui étaient une initiative du collège l'an dernier, sont devenus, à cette rentrée, une obligation institutionnelle. On doit en élire. Alors, ça tombe bien, ça tombe bien. Et là, on a eu beaucoup de candidats, beaucoup d'élèves. Alors, je pense que le fait qu'on ait eu beaucoup de candidats pour l'élection des éco-délégués, y compris des élèves qui disaient « Moi, je veux être délégué de classe, mais je veux aussi être éco-délégué. Je ne veux pas avoir à choisir, les deux m'intéressent. » Ça montre que la sensibilisation, elle commence à faire son chemin et que ça leur paraît important, d'une part, et puis utile, et qu'ils ont envie de s'y investir. C'est plutôt bon signe.
Bah, c'est des légumes qui sont dans des sachets, dans tout.
Ouais, le fait de manger un...
Non. C'est zéro. Bah, zéro.
Toujours zéro.
Bah, les déchets.
Nous avons parlé avec les élèves des enjeux énergétiques et climatiques, de la manière dont cela va impacter leur ville et des manières d'atténuer et de s'adapter aux phénomènes en agissant au niveau du collège. Ils ont travaillé à plusieurs projets en réfléchissant à chaque fois à l'impact potentiel, la faisabilité, le coût et surtout les personnes qu'il fallait mobiliser pour les mener à bien. L'idée de créer un potager sur le terrain du collège ainsi qu'un système de récupération d'eau de pluie pour l'alimenter a suscité beaucoup d'enthousiasme. Ça tombe bien parce que par ailleurs, le collège compostera ses déchets alimentaires dès l'année prochaine. L'histoire industrielle et surtout la fin de l'âge d'or de l'industrie automobile explique le taux de chômage élevé de toute l'aire urbaine. On y trouve également de nombreuses entreprises de réinsertion qui, dans leur activité et leur modèle économique, lient écologique et social.
Alors, les Jardins du Mont-Vaudois, donc, c'est une entreprise d'insertion, enfin, un chantier d'insertion par l'activité économique, plus exactement.
Marie-Agnès Rondeau, gérante des Jardins du Mont-Vaudois.
Qui a été mise en place en 2002 sur la ville d'Héricourt. Donc, accompagnée par le PLI, le plan local pour l'insertion à l'emploi. Qui était initialement porté par la ville d'Héricourt. Donc on nous a attribué un terrain de 2 hectares ici, sur le haut d'Héricourt, où on a commencé à produire des légumes bio, donc sur le modèle des jardins de cocagne. Voilà, donc les jardins de cocagne, c'est des chantiers d'insertion où on embauche des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, donc qui peuvent être cumulées. Hein, tout ce qu'on appelle frein à l'emploi, c'est le logement, le budget, la santé, la formation, ce genre de choses, en tout cas le manque de formation. Et on leur propose un emploi donc salarié sur un support maraîchage biologique. Donc ils produisent l'ensemble des légumes. Et ces légumes, on les récolte, on les met en panier et on les vend auprès d'un réseau d'adhérents de l'association. Donc on a démarré avec une cinquantaine de paniers, maintenant on est à 270. Donc c'est des adhérents consommateurs, c'est des familles d'Héricourt, de Belfort et du secteur de Del qui achètent nos paniers de légumes, donc un panier de légumes toutes les semaines pendant une année complète. En même temps, couplé à cette remise en activité, on propose aussi aux salariés un accompagnement social et professionnel. Donc pour essayer de régler un maximum les freins à l'insertion et puis pour travailler sur le projet professionnel et essayer de retrouver un job à l'issue du contrat au jardin. Alors, du coup, la création du jardin 2002, voilà, on est en 2019. On a une moyenne de contrat autour de 8 mois. Le maximum, c'est 16 mois à l'heure actuelle. Après, ça dépend un petit peu des politiques en cours, quoi. Donc, on est quand même plutôt ici sur un secteur industriel. Voilà, on a quand même encore pas mal de personnes qui s'orientent dans ce secteur-là, même si ceux qui postulent pour venir sur le jardin, c'est quand même plutôt des gens qui, justement, ne souhaitent plus travailler dans le milieu de l'industrie. C'est beaucoup des personnes, soit qui ont travaillé déjà dans le domaine de l'industrie et qui ne veulent plus y aller, ou alors qui n'ont jamais travaillé ou qui ont différentes activités, qui ont eu différentes expériences professionnelles dans différents domaines. Je pense que nous, on est arrivé quand même à la fin d'un modèle économique avec ces 15 années passées là sur notre site à Héricourt et en même temps à la fin d'un modèle de production agricole qui fait qu'on revisite un petit peu toutes nos pratiques, que ce soit au niveau de l'accompagnement social et professionnel, que ce soit au niveau de la commercialisation ou que ce soit au niveau de la production. Je pense que voilà, on arrive quand même à un tournant avec aussi tout ce qui tourne autour de la transition écologique, qui fait que pour moi, le modèle des jardins de cocagne, il est vraiment complètement adapté, complètement d'actualité, puisqu'on arrive à travailler sur autant sur l'économique que sur l'environnemental ou que sur le social. Donc c'est vraiment les trois piliers du développement durable qui font que, enfin, c'est des choses qui fonctionneront toujours. Il est généralisable si on fait attention à justement quelle terre on donne à qui, comment on réserve un petit peu le foncier, comment on le partage au niveau d'un territoire. C'est vraiment justement tout l'enjeu actuel, moi je trouve. Justement, on a une nouvelle parcelle, nous, sur la commune de Trémoin, mais on a mis 2 ans pour la trouver en lien avec la communauté de communes du pays d'Héricourt. Et nous, ça faisait à peu près 8 ans qu'on était en recherche de terrain autre que notre parcelle d'Héricourt, qui n'était pas du tout adaptée à la production maraîchère. On est sur un secteur périurbain qui demande... en tout cas aux collectivités, de réserver beaucoup de foncier pour le développement des entreprises, pour le développement commercial, pour le développement de l'habitat, souvent au détriment du développement agricole, ou du maintien en tout cas de l'agriculture périurbaine. Et c'est tout l'enjeu de demain aussi, ouais. D'aujourd'hui, demain. Il y aura toujours du travail, mais en même temps, c'est quand même pas si évident. On est quand même dans des modèles économiques qui sont fragiles. On a besoin de revisiter nos pratiques régulièrement. Et nous, on n'équilibre pas notre budget à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons. Hein. En particulier aussi pour la raison que la production n'est pas à la hauteur de nos besoins. Mais en fonction de ce que souhaitent les politiques, de ce que souhaitent les populations, de ce que souhaitent les collectivités pour développer un petit peu leur territoire, je pense qu'on a toute notre place, mais vraiment toute notre place dans le rural comme dans l'urbain d'ailleurs.
Renouer avec des savoir-faire, mais comme ça existe déjà. Et je pense que ces lieux-là, en même temps, je les laisse tranquilles parce qu'ils sont sur un système qui sont très faillibles.
Alors, donc, ici, nous sommes 3 structures. Donc, la coopérative Les Créatures, dont je suis la gérante, qui anime donc le baratin, et puis la version itinérante, donc le charabia, la roulotte, avec laquelle donc, on propose la petite resto sur les événements culturels de la région. Il y a une association qui porte le même nom, qui s'appelle Les Créatures, qui, elle, anime tous les événements culturels et citoyens du soir, et également le réseau d'échange réciproque de savoir. Et il y a l'Armée du Salut, la Fondation de l'Armée du Salut, pour qui on accueille le chantier d'insertion. Voilà, donc nous accueillons chez nous 6 personnes en salarié d'insertion, bientôt 10, parce que demain je suis en recrutement pour 4 personnes, dans les métiers du service et de la restauration. Où là, entre la coopérative Les Créatures et l'Armée du Salut, c'est juste un échange de flux financiers, à savoir qu'ils payent, eux, une partie du salaire de mes 2 encadrantes techniques, et nous payons une partie de ce prêt, entre guillemets, de personnel. Alors ici, au Baratin, vous êtes dans un lieu qui est mis à disposition des habitants.
Hélène, gérante de la coopérative Les Créatures.
Donc nous sommes, nous, dans notre objet, au niveau des valeurs du développement durable à tous les niveaux, dans toutes ces dimensions. Donc nous avons tous les soirs un événement proposé par une association ou un habitant qui va, par exemple, demain soir, on a un événement sur l'État contre les étrangers. Donc là, on est moins sur le thème du réchauffement climatique, mais on est quand même sur le thème de l'écologie humaine, hein, parce que tout va en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces réfugiés qu'on accueille également? Ça fait aussi partie du sujet. Voilà, donc ici, c'est vraiment le lieu où les gens ont en commun des préoccupations en termes sociaux et en termes environnementaux. Donc oui, ici, c'est vraiment le recueil aussi des personnes qui ne trouvent plus de sens dans leur métier, qu'ils soient travailleurs sociaux ou simplement salariés ou adhérents d'associations, parce que les moyens sont coupés aussi par les collectivités. C'est aujourd'hui très difficile de pouvoir mettre en œuvre ces missions en tant que bénévole, parce que voilà, tout le monde a besoin de manger. Donc je pense qu'on est vraiment dans ici un lieu de personnes qui cherchent à se réunir, à se fédérer, à monter des projets. Il y a d'ailleurs beaucoup de projets qui sont nés ici, de rencontres de personnes, parce que déjà sur les mêmes valeurs et sur les mêmes préoccupations. On est aussi sur des événements, bien sûr, autour de l'alimentation, parce qu'on propose une restauration avec des produits locaux et bio. Alors, pas toujours, parce qu'on est en difficulté financière, donc la marge du coût de notre activité, elle en prend un coup avec les produits locaux, si on veut rester sur des prix, on va dire, accessibles à tous. Donc voilà, ce sont des préoccupations pour lesquelles aujourd'hui, personne n'a de réponse unique, etc. Mais c'est justement la multiplicité des réponses qui pourra, je pense, apporter une amélioration. En tous les cas, c'est le but. C'est proposer un autre mode de consommation. C'est proposer un bouleversement des relations sociales. Par exemple, ici, moi, j'ai du mal à parler de clients. Pour moi, je n'ai pas de clients, j'ai que des partenaires. C'est compliqué parce que les clients qui sont ici animent chez nous en soirée des événements. Donc forcément, s'installe, j'ai envie de dire, une proximité avec les gens qui est d'un autre ordre qu'un rapport commerçant. Je veux dire, nous, on n'est pas commerçants. D'ailleurs, on a une coopérative, intérêt collectif dans le mot SIC. C'est bien ça, c'est qu'on s'intéresse au bien commun, au bien, enfin oui, c'est ça, on va dire un collectif, mais aussi un des individus, pour créer surtout des projets participatifs, parce que l'avenir, il est dans cette participation et des centres de coopération entre personnes et entre structures. Et c'est en ça qu'on est alternatif. Mais je sais qu'on a des associés qui détestent ce mot alternatif parce qu'il est galvaudé et qu'on met tout dedans. Donc aujourd'hui, on a plutôt dit qu'on a un bistrot culturel citoyen. Parce qu'en même temps, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On ne peut pas s'improviser citoyen comme ça. Il se trouve que c'est aussi parce qu'il y a 5 ans d'activité derrière nous et qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un lieu citoyen puisque ce sont les citoyens ici qui mettent en œuvre tous les événements du soir et qui proposent des projets qui après d'ailleurs nous échappent.
L'idée était vraiment, suite à des années assez difficiles au niveau de l'emploi sur le secteur, de développer des activités d'insertion qui permettent aussi, au départ, au public féminin d'accéder plus facilement à l'emploi. Maintenant, on est autant sur des enjeux environnementaux que des enjeux d'insertion. Mais c'est vrai que dans nos structures, c'est quand même encore souvent l'enjeu insertion qui prime. Enfin, l'emploi. C'est porté vraiment par la ville d'Héricourt en 2002. C'était la création du PLI, donc j'en parlais tout à l'heure, du plan local pour l'insertion et l'emploi. Forcément, c'est un emploi, donc c'est un salaire, c'est un statut social. Ça permet à chacun de retrouver une place, tout simplement, dans notre société. Mais c'est en grande partie aussi parce que c'est un support maraîchage biologique que les salariés viennent postuler, enfin les demandeurs d'emploi viennent postuler dans notre structure.
Alors, je suis arrivée au jardin il y a à peu près un an, au mois d'octobre l'année dernière. Parce que j'ai eu une coupure dans mon CV de 7 ans parce que j'ai eu des enfants. Et du coup, ça m'a permis de retrouver un emploi. Et pour ensuite retrouver autre chose, mais déjà remettre un pied dans le monde du travail. Et du coup, depuis un an, au jardin, on désherbe, on plante, on sème, on récolte. Je fais aussi les livraisons, je suis allée au bois. Alors j'ai des contraintes horaires qui font que j'ai un peu de mal à retrouver autre chose. Et puis de toute façon, il y a très peu de travail en tant que salarié dans ce qui est, en tout cas, maraîchage. Okay. J'ai fait plusieurs travails. J'ai travaillé dans mon domaine d'études qui est la sécurité au travail. Et puis, n'ayant pas retrouvé derrière, j'ai travaillé dans une bibliothèque, j'ai travaillé dans de l'accueil périscolaire d'école, j'ai travaillé un petit peu en usine. La semaine prochaine, j'ai un entretien pour un poste complètement différent, d'accord, de l'administratif plutôt.
Ok.
On verra bien. Moi, en septembre l'année dernière, je suis allée à un forum pour l'emploi qui était sur Héricourt, où il y avait les jardins qui étaient là. Il y avait aussi l'entreprise de réinsertion professionnelle qui fait des ménages à domicile, qui est sur Héricourt. Et en fait, on m'a plus ou moins laissé le choix entre les deux. Il y avait aussi Fripvie, qui est sur Grand Charmont et qui est aussi de la réinsertion professionnelle. Et moi, j'ai préféré venir au jardin parce que être dehors, être, je préférais. Mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents. Mon frère a repris la ferme aussi, donc je suis issue du côté agricole.
On est autour de 50% là de personnes qui ont retrouvé un emploi ou une formation qualifiante à l'issue ou en cours de contrat. On essaie, particulièrement au sein du PLI, puisque le PLI permet de regrouper l'ensemble des structures sociales, de formation et d'emploi qui sont sur le secteur de la communauté de communes. Et du coup, on a des suivis effectivement à 2 voire 3 ans, en lien aussi avec Pôle emploi et Mission locale, pour les personnes qu'on a recrutées. Oui. Pour certaines, c'est durable, pour d'autres, un peu moins. On sait ici que... on sait aussi que ici, c'est l'intérim hein, qui embauche le plus de personnes. Hein. On n'est pas sur du CDI principalement parce qu'on est en lien avec l'industrie. Mais ça arrive aussi. Et puis l'intérim, on peut aussi partir sur des durées de 18 mois. Donc c'est ce qui se fait quand même de plus en plus sur le secteur. Et puis avec le CDI intérimaire, on peut aussi peut-être espérer un peu de durabilité dans ce type d'emploi. Après, il y a de tout aussi. Hein. Il y a des plus ou moins courtes durées pour tous. Mais on a vraiment des gens qui s'en sortent. On en a qui reviennent aussi sur le jardin quand on fait nos portes ouvertes. Quand on a des moments un peu spécifiques dans l'année, certains reviennent et nous donnent des nouvelles. C'est assez sympa. Ouais.
Le problème, c'est que souvent, ça accumule, en fait. C'est souvent un cumul de problèmes, notamment souvent victimes de violences conjugales. Femmes seules avec enfants, des problèmes culturels aussi, des problèmes d'éducation aussi, des problèmes familiaux, des problèmes d'addiction. Tout ça cumulé font que c'est très compliqué pour les personnes d'être suffisamment bien avec eux-mêmes pour être à l'aise dans un emploi, tout en sachant que l'emploi pour les personnes en difficulté aujourd'hui, il est quand même lié beaucoup aux cadences. Il y a des cadences quand même infernales. En tous les cas, moi, ce que je constate par rapport à mes 15 ans du coup, d'expérience dans l'insertion et dans le PLI, notamment, qui est le plan local d'insertion par l'économique, donc qui s'occupe de gens en grande difficulté, c'est que le problème, il est un peu de toutes parts, et en particulier aussi, il est lié à l'emploi. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi pour des personnes en grande difficulté. Aujourd'hui, l'emploi ne rémunère plus, le travail ne rémunère plus. Donc c'est toujours très difficile aujourd'hui de trouver de l'emploi, et nous, en tant que travailleurs sociaux, nous sommes évalués sur des résultats à l'emploi. Donc on est responsable souvent de non-emploi des personnes qu'on accompagne, on responsabilise les gens, on les culpabilise sur le fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ils n'en cherchent pas, qu'il y a des milliers d'emplois, d'offres d'emploi qui ne sont non pourvues, mais est-ce qu'on est allé qualifier ces offres d'emploi? Donc voilà, moi je pense aujourd'hui que le nouveau modèle de l'insertion, il passe par, au contraire, une valorisation des savoir-faire des personnes. Et non pas qu'il se plie à un système aujourd'hui que nous-mêmes refuserions. Moi, j'avais monté une action de formation et d'insertion autour de métiers de préparateur de commandes, où il y avait pourtant 11 entreprises qui recrutaient sur Belfort. Donc, on a permis aux gens de se former. Donc, tous ont eu leur titre de préparation de commande. Et croyez-moi, c'était un sacré combat parce que la préparation, la formation est à Besançon. Les gens n'étaient pas motorisés. La formation commençait à 8h moins le quart le matin à 10 km de Besançon dans un village. Donc, moi, je devais trouver des solutions de transport que je n'ai pas trouvées puisque, voilà, à part louer un bus à 6h du matin pour 12 personnes, quand même, c'est un petit peu onéreux. Donc, j'ai instauré à l'époque tout un système de covoiturage, mais ça veut dire aussi réparer les voitures parce que les voitures étaient en mauvais état. Voilà, c'était tout un truc. Faire garder les gamins, comme on fait pour faire garder les gamins de gens qui vont en formation très tôt le matin, comme ça, à Besançon, toute la journée. Donc là, c'était aussi très, très difficile. Et au final, toutes et tous ont eu leur titre professionnel de préparateur de commandes. Tous ont fait leur stage dans les entreprises du coup qui les accueillaient, parce qu'on avait signé avec eux, avec les entreprises, des engagements. Et aucun n'est resté en emploi. Et pour les trois quarts, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux gens de faire 15 métiers en même temps à toute vitesse. Un préparateur de commande, il est sur l'ordi, il est sur son Fenwick, il charge, il a une pause de 3 minutes 20. Enfin voilà, c'est très compliqué aujourd'hui pour les gens en difficulté qui sortent d'un profil, par exemple l'industrie Peugeot, parce qu'ici, on est quand même sur un lieu de l'industrie. Et c'est ça qui est compliqué, c'est même dans la restauration. Enfin, les gens ici sont compétents. Et pour autant, ils ne trouvent pas d'emploi, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on recrute dans la restauration. Mais allons voir les conditions de travail dans la restauration. Comment font les gens pour se déplacer quand ils habitent en ville et qu'ils ont un enfant, pour aller travailler dans un village, certes, qui recrute, mais au niveau de la mobilité, de la garde des gamins, où finalement, tout l'argent va partir dans la garde de l'enfant et dans le trajet, dans la mobilité. Voilà, il y aurait tellement de choses à mettre en place et c'est dommage. Quand on est embourbé comme ça dans ces problèmes, c'est très difficile déjà d'imaginer de changer, même si c'est pour un mieux. Parce que nous, on se dit, mais c'est pour vous, vous allez avoir un emploi, un CDI, etc. Le changement est tellement énorme au niveau familial, au niveau du couple quelquefois, qu'il faut du temps, en fait, il faut du temps. Et du coup, il faut repasser par toutes les cases, et celle aussi de la formation, et essentiellement celle de la confiance en soi, parce que ce sont des personnes qui ont perdu toute confiance. Et c'est très difficile de se relever.
A sudden sun discloses for the people here are singing bread and roses as we go marching, marching we battle to for men for they are women's children and we
Bread and Roses, tiré du poème de James Oppenheim et extrait du film Pride de Matthew Varkas.
C'est vrai, plus joli, ouais. Moins récent. Du coup, ça va passer dans les paniers bientôt, hein. Je pense dans 2 semaines, on a une tournée d'épinards qui passe.
Nous, notre objectif, quand même, on est dans un plan de restructuration assez global et assez complexe, enfin, en tout cas, qui va nous demander du temps pour nous réadapter. Hein. C'est la fin du modèle économique actuel, en tout cas, et du modèle de production. On est donc sur une transition, on va dire, à 3 ans, où on espère voilà, avoir un volume de légumes qui nous permette de commercialiser à peu près 400 paniers par semaine. Et là, actuellement, on est à 270, donc il y a de la marge. Mais principalement parce que avec la permaculture et l'agroforesterie, on espère vraiment augmenter notre productivité en restant sur des surfaces qui sont quasiment les mêmes qu'à l'heure actuelle, mais avec un autre terrain quand même et d'autres qualités agronomiques à ce terrain. Pour le moment, on cultive encore les 2 terrains. On est toujours dans cette phase de transition. On a besoin des 2 surfaces parce que pour le moment, on n'a encore pas mis en place l'ensemble des choses qui nous permettront de travailler en permaculture. Par contre, à terme, l'idée est quand même de déménager l'ensemble de la structure sur Trémoin. Alors pas, enfin, on est quand même au milieu. On est vraiment là en secteur plus rural qu'ici, hein, à Héricourt. Du coup, on est entre 2 villages et en bordure de forêt. Mais c'est une parcelle qui est assez bien située et qui a du potentiel, mais qui n'a pas encore de fruitier pour le moment. Mais il y a des arbres en contour.
On est aujourd'hui, nous, au niveau de l'insertion, en essayant de, de promouvoir la création d'activités, mais attention, pas n'importe comment, hein, évidemment, en lien avec les structures d'accompagnement de la création, puisque les gens ont des savoir-faire, c'est évident. Donc pourquoi pas imaginer des lieux où les gens expriment leur savoir-faire, que ça soit dans tous les métiers, hein, je pense au métier de la réparation d'outils, au métier du service, de la restauration. Il y a combien de dames de quartier aujourd'hui qui savent mieux cuisiner que n'importe qui d'autre? Et pourquoi pas essayer de trouver des lieux où chacun puisse se trouver un petit revenu par rapport à son savoir-faire. Enfin, moi, je suis très imprégnée de ce qui se passe ailleurs qu'en France, où il y a beaucoup moins de réglementation et où c'est possible. Et il y avait une petite jeune femme l'autre jour de 25 ans, toute seule, avec un enfant de 3 ans, qui était complètement angoissée avec cette histoire de réchauffement climatique, en me disant, mais moi, par exemple, je ne sais même pas jardiner, je ne sais rien réparer toute seule. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux m'adresser, qui est-ce qui peut me montrer. Enfin, voilà, et je pense qu'il y a une vraie angoisse. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, il est de réussir à lier, à relier tous ces citoyens, mais pas seulement, les alternatives aussi, pour pouvoir dire qui fait quoi et où orienter les gens pour pouvoir les aider à se former et être autonomes par rapport à ce qui sera en 2050, comme on l'imagine. Mais en tous les cas, quel que soit le scénario, de toute façon, autonomiser les gens par rapport à leur vie propre, donc à savoir cultiver, mieux manger, mieux s'alimenter, de toute façon, ça sera que mieux. Je me dis, s'il n'y a pas de gros dégâts au niveau du réchauffement pour les climato-sceptiques, eh ben, ma foi, tant mieux. Mais en tous les cas, c'est une démarche vers laquelle je pense qu'il est nécessaire d'aller aujourd'hui. En tous les cas, c'est le besoin des personnes. Et peut-être que c'est au départ par ces personnes-là qu'on pourra influencer les territoires. Nous, le cœur du projet, c'est un réseau d'échange réciproque de savoir. Voilà. C'est une démarche pédagogique, éducation populaire, totalement gratuite, qui permet en fait de recenser les savoirs des uns et des autres, que ce soit en termes d'individus ou que ce soit en termes de personnes morales, une association par exemple, et de pouvoir dire, eh ben voilà, telle association, elle a telle mission, tel savoir. Toi, Marie, qui me dit que tu ne sais pas comment faire, par exemple, pour mettre des panneaux voltaïques sur ta maison, pour pouvoir un petit peu, au niveau énergétique, être indépendante, ben voilà, moi, je peux t'envoyer là. Donc, c'est vraiment juste un recueil de savoir avec des mises en relation, parce que ce n'est pas des bourses, hein, ça nécessite quand même une animation derrière, des mises en relation. Et je pense qu'il faut multiplier, du coup, ces outils de lien aujourd'hui, de manière à pouvoir au moins recenser qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut s'aider, en fait, dans cette angoisse terrible, du coup, du réchauffement climatique. Aujourd'hui, si on veut arrêter de gaspiller l'énergie, par exemple, si on veut arrêter de, parce qu'on n'a pas de moyens, être obligé d'acheter des produits industriels ou autres, comme d'ailleurs malheureusement c'est le cas, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent le plus de la malbouffe, c'est malheureusement les gens qui ont le peu le moyen aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il est très important que les gens puissent renouer avec la terre, avec la culture pour mieux manger, pour moins dépenser, moins être malade et puis aussi changer le mode de relation entre les personnes, c'est-à-dire recréer de la solidarité. Moi j'y crois beaucoup parce que forcément quand on est en survie, et peut-être qu'on sera en survie dans pas très longtemps, la seule chose à faire c'est de se relier et de se regrouper parce que une personne toute seule n'a pas toutes les compétences. Il faut bien se relier ensemble pour pouvoir partager nos savoirs et être plus fort et survivre. Et je pense qu'un des premiers leviers vers l'emploi et vers la cohésion, ça serait renouer avec des savoir-faire également pour les personnes. On voit ici au niveau du chantier d'insertion, les savoir-faire, ils sont bien réels pour les personnes. Donc pourquoi pas remettre au goût du jour des lieux où les gens peuvent du coup montrer leur savoir-faire, en vivre ou en tous les cas les troquer décemment. Enfin voilà, on va peut-être revenir aussi vers pourquoi pas une certaine mode d'économie collaborative. Je pense au troc notamment, moi j'y crois beaucoup. Puisque de toute façon, qui dit effondrement climatique dit aussi effondrement monétaire. Enfin, il y a plein de menaces aujourd'hui. Donc moi, je crois beaucoup à ça, mais c'est très, très loin encore aujourd'hui dans les esprits.
Il manque plus qu'une chose là, à la commune de Betoncourt, c'est de mettre en place une jolie grainothèque dans sa bibliothèque pour que les gens puissent, toujours dans un esprit de gratuité, déposer leurs graines qu'ils ont en trop et puis venir récupérer des graines sans forcément que ça soit un troc. Voilà, sur les marchés de PMA, on met en place ces grainothèques et puis on laisse les gens se servir en graines. Et ça, c'est encore un truc qui n'a pas été fait sur Betoncourt. Ça serait bien, là, ça serait très complet. Ça s'appelle des grainothèques. On a fait quelques marchés sur le pays de Montbéliard. et marché du soir. Et on va à la rencontre des gens et puis voilà, on entend des gens qui nous disent « Ah, bah, j'ai mangé une tomate, ou, voilà. Ah, j'ai récupéré de la menthe, ils avaient besoin d'eau. » Donc ça fait toujours plaisir. Moi, je me suis inscrite un peu dans le mouvement à me poser des questions vers 2011. Et je me suis inscrite dans une AMAP qui fait partie du collectif du champ à l'assiette. Je fais partie aussi d'un système d'échange local. Donc il y a plein d'initiatives qui font que où on peut voir que les gens s'y intéressent et qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et puis ça fait du bien, ça fait de l'oxygène. Il y a la PIF qui se met en place. Alors peut-être pas trop sur notre territoire encore parce que Il faut qu'il y ait plus de gens motivés, que ça soit pas toujours les mêmes qui portent les initiatives. Mais la PIV, c'est la monnaie locale byzantine. Une PIV, c'est une pomme de pin, en fait. Donc voilà, c'est la monnaie locale qui a commencé à Besançon, Lons-le-Saunier, je crois, sur le territoire de Belfort, si je dis pas trop de bêtises, mais qui se développe. Donc c'est une monnaie qu'on peut dépenser que dans le territoire, donc qui ne peut pas partir sur des îles extérieures, n'est-ce pas? S'installe bien sur la Franche-Comté et oui, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des autres modèles économiques et puis qui sont toujours en lien avec le respect de l'écologie du territoire.
Puisque vous êtes là, on a un petit service à vous demander. Pour continuer l'activité de la traverse, on lance une campagne de financement participatif. Elle dure jusqu'à début décembre 2019. Vous pouvez la trouver sur la plateforme de financement participatif Zest et le lien se trouve aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez soit effectuer un don, soit en parler autour de vous. Toute participation est bienvenue. Merci.